Toujours la crise. Oui, c'est toujours la crise. 15 ans après les chocs pétroliers auxquels, à l'époque, les experts... Le prix du pétrole est bien retombé. La crise, elle, s'est aggravée. Catastrophe, le dollar monte. Catastrophe, le dollar descend. Vous n'y comprenez rien? Ce n'est pas un hasard. Radio Zone vous propose une série d'émissions sur la crise et l'économie. Pas de conférences d'experts ou de soi-disant experts, mais des entretiens entre 3 ou 4 personnes, simples citoyens, qui aimeraient chercher à comprendre un peu mieux ce sujet capital. L'économie, l'organisation même de notre vie en société, est peut-être bien un sujet trop important pour laisser entre les mains d'une petite minorité. Toujours la crise, toutes les semaines à la même heure sur Radio Zone, 93,8 MHz. Une demi-douzaine d'émissions sur l'économie et la crise. Bienvenue sur Radio Zone pour la cinquième de cette série d'entretiens sur l'économie. Après avoir traité les questions du chômage, de la soi-disant déréglementation et du problème de l'écologie dans ses rapports avec l'argent et l'économie, nous allons essayer de se diriger un peu vers un bilan avec cet entretien d'aujourd'hui. Qu'on pourrait appeler quelle sortie, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, pour cette crise. Je vous rappelle que nous ne sommes pas dans les studios, il s'agit d'émissions pré-enregistrées, mais que si vous avez des questions ou des remarques, nous vous enjoignons absolument de contacter quand même la radio, téléphoner à la radio au 50 40 51 41, 023 depuis la Suisse, je répète le numéro, 50 40 51 41 023 depuis la Suisse et laissez vos remarques avec la personne que vous trouverez là ou sur le répondeur automatique, laissez vos coordonnées si vous voulez et nous vous contacterons. En tout cas, nous ferons une dernière émission cette fois-ci en direct sur les ondes où vous pourrez participer sans doute dans 2 semaines. Voilà. Sans plus attendre, nous allons aborder l'entretien d'aujourd'hui. Bon, dans les précédentes émissions, nous avons vu toute une série d'anomalies, de dysfonctions de l'économie et de l'argent tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, on va peut-être, dans cette émission, essayer de résumer d'une part un peu tout cela et puis voir un peu dans quelle direction on pourrait aller à partir de là. Tout d'abord, il faut peut-être voir dans quelle solution, entre guillemets, dans quel programme de sortie de la crise on se trouve aujourd'hui, en résumé. Et deuxièmement, voir si il y a une autre solution qui est proposée actuellement. Est-ce que la gauche, par exemple, a une alternative ou non?
Alors, on a déjà parlé un peu de ça, peut-être sans le dire, mais quand on a parlé de concentration, de déréglementation, de concurrence, et de tous ces éléments qui constituent le programme actuellement mis en œuvre par différents gouvernements des pays industrialisés du Nord, tout ceci fait que la droite, disons, c'est une mauvaise définition, mais prenons ce terme simplificateur, la droite, qu'elle soit de Reagan, de Thatcher ou de Chirac ou de Barre, cette droite, en réalité, a proposé quelque chose d'excessivement simple. Même si souvent elle le dit de façon compliquée pour que ça apparaisse peut-être plus technique ou plus scientifique même, mais la logique de ces propositions est extrêmement simple. Il s'agit simplement de redonner à la concurrence entre producteurs, entre consommateurs, tout son sens,
et toute sa dynamique pour que les moins bons périssent, soient vaincus par les concurrents et que les meilleurs s'affirment. Donc, c'est un programme qui n'a rien de neuf ni de révolutionnaire dans la mesure où on retrouve là des notions qui avaient été mises en avant au XIXe siècle lors du décollage du capitalisme industriel dans nos pays. Cela signifie quelque chose de très important, c'est que d'une part, les tenants du capital, les possédants, n'ont à proposer que des techniques anciennes dont on peut a priori se dire qu'elles ne sont pas forcément adéquates à la situation nouvelle puisque les choses changent et que l'histoire généralement ne se répète pas dans les mêmes termes. Ce qui indique a priori une relative faiblesse idéologique de la proposition de la droite, des possédants du capital, il y a cet élément-là. Et puis l'autre élément, c'est que la politique qui nous est imposée marque notre vie quotidienne de façon considérable. Donc nous en sommes tous touchés. Le fait que ces gouvernements proposent l'austérité, la lutte contre l'inflation et des mesures de ce genre ne sont pas du tout neutres quant à nos conditions de vie quotidienne, notamment quant à nos revenus, quant au loyer que nous devons payer pour notre appartement, quant au prix que nous devons payer pour acheter les biens de consommation essentiels, etc. Ce que j'aimerais dire, surtout, c'est que le fondement de ce programme de droite est donc la capacité concurrentielle de tout un chacun d'imposer le produit qu'il fabrique comme meilleur eu égard aux produits similaires fabriqués par le voisin. Ce qui fait que, et ça vous pouvez le vérifier tous les jours dans les journaux, ce qui fait que on cherche à faire en sorte que l'économie de chaque pays pris comme un ménage, si vous voulez, on pourrait faire la relation entre ménage d'un individu, de son conjoint et de ses enfants, et puis le ménage constitué par une nation, la Suisse, la France, l'Italie, etc. Bien, il faut que le ménage national gagne plus que ce qu'il dépense, d'après les bonnes théories qui nous sont servies aujourd'hui. Or, gagner plus que ce qu'on dépense, ça veut dire, toujours en simplifiant, exporter plus que l'on importe. Alors, c'est très rigolo de se laisser dire des choses pareilles parce que il y a une impossibilité logique à ce schéma. C'est que, fatalement, dans un monde qui est fini, et notre monde est fini, il ne faut pas l'oublier, on peut dénombrer les pays qui constituent la planète, on peut dénombrer les producteurs, tout ça n'est pas de l'ordre de l'infini, il est de l'ordre du fini. Si l'un ou l'autre des acteurs gagne plus que ce qu'il dépense, ce sera obligatoirement aux dépens de d'autres qui, eux, pour que l'équilibre soit d'une façon ou d'une autre atteint, devront à ce moment-là s'endetter pour payer les exportations excédentaires des meilleurs concurrents.
Les fameux jeux à somme nulle, donc.
C'est les fameux jeux à somme nulle, tout à fait. Alors, ceci est d'autant plus visible aujourd'hui que la croissance n'arrive pas à redémarrer. Dans les années 60 et même au début des années 70, la croissance de tout, non seulement de la production, mais aussi des prix, et là, il y aurait beaucoup à dire sur l'inflation, et la capacité de camouflage que l'inflation a sur les phénomènes économiques, mais ces phénomènes d'inflation et de croissance permettait de camoufler ces inégalités entre bons concurrents et mauvais concurrents. Aujourd'hui, ça éclate aux yeux à tel point que les États-Unis, pour ne pas parler de quelqu'un qui n'est pas tout à fait faible ni petit, se mettent à genoux devant le Japon
et l'Allemagne fédérale pour que ces deux pays cessent d'accumuler des excédents commerciaux tels qu'ils les accumulent aujourd'hui. Donc ça veut vraiment dire quelque chose d'assez important. La France, d'ailleurs, ne cesse de pleurer de la même façon que tant que l'Allemagne et le Japon auront des excédents commerciaux, seront tellement compétitifs sur le marché mondial, la France ne pourra jamais reconquérir ses parts de marché. La Suisse ne dit pas autre chose, même s'il est plus discrète finalement, mais elle vise à mettre son industrie en situation davantage compétitive pour retrouver des positions sur le marché mondial, et chaque pays fait pareil.
Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très simple et très important qu'on n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre. Effectivement, si tous les États, on dit à tous les États d'exporter plus qu'ils importent, c'est une absurdité. Et c'est l'absurdité qu'on voit l'FMI qui fait le tour des pays en voie de développement, imposant des programmes d'austérité, proposant des industries de l'armement ou de n'importe quoi au Brésil, en Argentine, etc. En fait, je crois que la raison est assez simple, c'est qu'en fait, l'FMI, c'est le démarcheur, l'huissier de toute une série d'intérêts privés, des grandes banques occidentales, qui, eux, veulent voir le retour sur leur fric, le fric qu'ils ont prêté à ces pays. Donc, ils veulent que cet argent sorte. Et puis, en fait, c'est un programme complètement anarchiste, dans le mauvais sens du terme, enfin, chaotique, qui cherche simplement à ce qu'un maximum de cet argent rentre de tous ces pays, mais qui n'a aucun avenir. Puis je pense que c'est important que tu insistes là-dessus pour qu'on voit qu'effectivement, il n'y a pas un programme de sortie qui est valable maintenant pour la droite, en tout cas pour moi.
Mais il y a une sortie, c'est le marché qui est en train d'évoluer dans ce sens. Cette énorme concurrence dont parlait Jean-Noël, c'est bien vrai. Il y a trop de production, il y a trop de compétiteurs, il y a trop de produits, il y a trop peu de gens qui achètent par rapport à ces produits. Donc, la réaction des marchés se fait dans le sens d'une concentration qui est à la base de cette vague de prise de contrôle de société à un niveau transnational, concentration dont le but exclusif, c'est de faire disparaître la concurrence. Et parallèlement et complémentairement à cette vague de concentration entre sociétés transnationales, parfois objectivement concurrentes, il y a une identification de plus en plus étroite entre la grande industrie qui se concentre et l'État qui va la protéger sur les marchés internationaux. Car on n'est plus au niveau des États d'antan, mais au niveau on est au niveau des grandes régions économiques telles que les États-Unis du Nord, qui incluent le Canada, l'Amérique centrale et les Caraïbes, qui inclut l'Europe entière, qui inclut l'Union soviétique avec ses pays du Comecon, qui inclut le Japon avec sa sphère de prospérité en Asie, etc. Donc, ces grandes entreprises se réunissant après avoir littéralement dévoré la concurrence, ne se suffisent pas elles-mêmes non plus, et elles cherchent l'appui de l'État qui, lui, a été renouvelé. D'où la fameuse signification de la déréglementation. On déréglemente ce qui gêne pour pouvoir permettre à ces entreprises de mieux se marier à un État qui va les représenter, les protéger. Alors, cette protection de l'État se fait de plusieurs manières. D'abord, d'une manière protectionniste. On assure que certains marchés soient réservés à ces grandes entreprises multinationales à l'intérieur du marché commun, par exemple. Et ensuite, on s'assure que l'État recommence à jouer son rôle traditionnel, le nouvel État ainsi déréglementé, puisse à nouveau fournir des contrats sur large échelle, des contrats de recherche, des contrats de grands travaux publics, etc. Donc quelques exemples sont le tunnel sous la Manche, par exemple. Donc quelques autres exemples sont les programmes Esprit de recherche commune aux États du marché commun, qui, comme par hasard, ont été alloués presque tous à la grande industrie. Donc d'autres exemples sont les programmes de fabrication commune d'appareils militaires, et ainsi de suite. Donc en fait, le marché. Et là, c'est là le problème. Le marché est en train de dicter des solutions qui sont aussi bien de droite que de gauche, parce qu'on voit que les gouvernements au pouvoir actuellement jouent toujours le même jeu dans le même sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, au niveau idéologique, une différence entre ceux qui sont au pouvoir et se disent de gauche et ceux qui sont au pouvoir et se disent de droite, dès lors qu'il s'agit de favoriser ce genre d'évolution. Tout cela amène des concentrations aussi au niveau politique, à des formes à des structures de pouvoir très autoritaires. Et on avait mentionné il y a quelques émissions en arrière que l'expression typique de ces formes autoritaires et de ces formes de concentration économique très avancées sont au niveau monétaire, les étalons monétaires, dont on reparle encore aujourd'hui. L'étalon monétaire, que ce soit avec l'or ou les matières premières, est l'expression financière de cette tendance vers la concentration du pouvoir économique politique. Alors, quelle est l'alternative à ça ?
Tu disais tout à l'heure, avant qu'on commence, tu as évoqué le terme de national-socialisme aussi, pour dire que, en fait, c'est aussi la forme type de ce type d'État et de ce type de collaboration avec l'industrie qui s'est manifestée lors de la dernière grande crise.
Malheureusement, oui, parce que dans ce rôle, l'État contente tout le monde. D'abord, il sauvegarde son pouvoir économique et politique, et surtout le pouvoir des bureaucraties qui le constituent, parce que la bureaucratie, c'est une force réelle avec laquelle il faut compter aujourd'hui de plus en plus, surtout s'il y a encore une autre crise économique. Ensuite, quand l'État commence à distribuer sa manne sous forme de travaux publics, les syndicats sont tout contents. Donc l'État, c'est un État socialiste qui fait du social. Et les grandes sociétés, les grands producteurs, les grands transformateurs industriels sont tout contents parce qu'ils reçoivent des commandes, que ce soit des autoroutes, des aéroports, des avions, des tunnels sous la Manche ou n'importe quoi. Ce sont des commandes bien précises.
Je corrige là. L'État fait du social, mais il n'est pas socialiste.
C'est du social, mais tu sais, dans les journaux, on peut appeler ça. Entre la différence entre social et socialisme, il n'y a que quatre lettres, alors c'est vite fait. Donc, à la limite, c'est un État coopératif qui rassemble les intérêts de toute une série de catégories qui, elles, se trouvent acculées en absence de ce genre de travaux publics, de ce genre de commandes à l'industrie, etc. Alors, peut-être c'est un gros mot à prononcer, mais c'est un État corporatiste et qui est un État national-socialiste, ou social-nationaliste. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est peut-être le début d'une autre histoire.
Oui, le national-socialisme, effectivement, ça commence sur le côté socialisme. Mussolini fait ses autoroutes, Hitler aussi. Tout le monde trouve que c'est finalement pas si mal comme formule. Et puis ça finit côté nationalisme quand ces marchés ne suffisent plus. Et que ces différentes politiques nationales socialistes, que ce soit ceux du Japon, des États-Unis, parce que finalement Roosevelt avait une politique semblable, démocratique, mais aussi de grands travaux, etc. Et puis quand ça ne suffit plus, y a une grande guerre. Et puis je pense qu'on voit aussi là qu'on n'en est pas si loin.
Oui, j'aimerais qu'on clarifie bien la notion d'État. Parce qu'on ne cesse de parler de l'État partout, tous les jours. Et la façon dont Ferruccio a introduit ça me semble excellente, dans la mesure où on voit bien que, première chose, l'État n'est pas une entité propre qui plane comme ça dans la nature, dans l'atmosphère ou dans la stratosphère. L'État n'est pas neutre, l'État n'est pas là par hasard. Tout ceci doit être très clairement dit parce qu'aujourd'hui, on croit souvent que l'État est le recours par lequel on peut encore s'opposer aux formes les plus absolues de la concurrence, donc aux formes qui sont dangereuses pour les individus ou qui dérangent les individus. Donc on va se réfugier dans l'aspect social ou des activités sociales de l'État, sous-entendu qui sont une antidote ou un contrepoids à ce trop-plein de concurrence ou de sauvagerie du marché. Or, il ne s'agit pas de ça du tout. Notamment, le fait que les nouvelles formes du marché actuelles impliquent, comme l'a très bien dit Ferruccio, une alliance beaucoup plus stricte qu'avant entre les grands conglomérats industriels ou financiers, ou les deux, d'une part, et l'État, d'autre part, et que cette conjonction d'intérêts est beaucoup plus strictement gérée qu'elle ne l'était auparavant, montre bien que l'État, la puissance publique, est ce qu'il a toujours été d'ailleurs, quelles que soient ses formes d'existence, un compromis passé entre les différents acteurs sociaux dans un endroit donné, à un moment donné. Et que ce compromis tient compte de la puissance de chacun des acteurs et de sa capacité, par conséquent, à faire triompher ses intérêts et ce qu'il veut faire de l'État. Alors c'est tout à fait évident que les grands conglomérats financiers industriels ont intérêt à ce que l'État fasse un peu du social pour que les déséquilibres au sein d'une collectivité ne soient pas tels qu'ils provoquent des remous ou même des insurrections, des désordres qui ne permettraient plus de faire fonctionner la machine économique. Donc, ce pourquoi l'État est censé exercer ses talents. Alors, cette manière de présenter l'État, j'imagine que chacun est bien conscient que c'est très exactement l'inverse de ce que prétendent les tenants de la gauche officielle ou enfin organisée dans les partis ou dans les syndicats qui historiquement ont représenté la gauche. Parce que précisément la gauche dit nous voulons plus d'État dans ce sens que l'État doit assurer la protection des individus les plus défavorisés ou les plus menacés et l'État doit contrebalancer les effets pervers du capitalisme, de la concurrence, des inégalités créées par cette concurrence et ce capitalisme. Donc au fond, la gauche traditionnelle revendique l'État comme non-capitaliste. Or, c'est pas vrai du tout. L'État n'est pas non-capitaliste, il fait partie de ce développement du capitalisme. Ce qui me faisait dire tout à l'heure que l'État, même s'il fait du social, n'est pas socialiste pour autant. Il faut savoir quelle est la logique d'ensemble qui l'en sert et qui lui donne sa direction. Donc, si on pouvait se mettre d'accord sur cette définition-là de l'État, d'abord, ce qui est très grave, on en arrive à se poser des questions sur les notions de national-socialisme et de leur résurgence aujourd'hui. Et d'autre part, on en arrive à voir que, et c'est tout aussi inquiétant, et c'est lié d'ailleurs, la gauche n'a pas de programme à proposer. J'entends par là, pas de programme propre à proposer. Parce que si la gauche propose de renforcer l'État social, d'augmenter les prestations pour les vieux, pour les handicapés, de créer un revenu minimum, ce qui est en cours en France. Si la gauche demande ça, ce n'est que un certain nombre de palliatifs, heureux ou malheureux, là n'est pas le problème d'ailleurs, ce ne sont qu'un certain nombre de palliatifs par rapport à une situation fondamentale qui est celle du développement capitaliste, mais qui ne fait pas intervenir l'intérêt propre des travailleurs tels que la gauche a toujours eu, je crois, pour mission de représenter. Ce qui fait que, se réfugiant dans l'État, la gauche s'y perd, en réalité. Et pour moi, elle montre, en se réclamant de cette idéologie-là, elle montre qu'elle n'en a plus d'idéologie. Ou plus exactement, qu'elle a, subrepticement et sans le dire, accepté l'idéologie bourgeoise de la concurrence, de l'austérité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce que le gouvernement, le deuxième gouvernement Monroy, puis le gouvernement Fabius en France avait fait à la fin des gouvernements socialistes. J'imagine que le gouvernement Rocard actuel va s'élancer gaiement dans les mêmes brisées. Il n'est que de voir ce qu'ont fait les gouvernements sociaux-démocrates en Allemagne, ce que font les gouvernements sociaux-démocrates dans les pays nordiques européens, pour savoir que la politique de ces gouvernements socialistes ou sociaux-démocrates est une politique tout à fait conforme aux intérêts du capital.
En Espagne, González est en train de privatiser les grandes entreprises d'État, et notamment parce qu'il trouve que c'est des foyers de l'insubordination ouvrière. C'est tout dire.
Alors, je crois que c'est très important d'avoir redressé cette image de l'État, parce que ce faisant, on voit plus clairement où on se trouve dans le paysage idéologique. La droite n'a que de vieilles recettes à nous proposer pour sortir d'une crise qui est pourtant nouvelle. La gauche, elle, n'a aucune recette à proposer, et par conséquent, il va bien s'agir de faire quelque chose, néanmoins.
Non, c'est pour ça que je trouve que quand on parle de questions comme celles que nous essayons de discuter maintenant, on arrive très vite dans un paysage que moi je caractériserais de tragique, dans le sens que on est pris dans un projet qui est tout puissant, absurde, mais qui s'impose à nous. Des contre-projets, il n'y en a aucun de sérieux, et chaque individu se retrouve vraiment face à sa propre impuissance, dès qu'il s'agit de dire « mais qu'est-ce qu'on veut faire de réellement autre ?» Et surtout maintenant, je pense, dans les années 80, parce que nous avons participé à une série de mouvements, ou de débuts de mouvements, qui ont eu certains petits succès, je pense au mouvement de quartier par exemple, ou bien d'autres mouvements auxquels nous avons participé aussi dans l'écologie, mais on s'est heurté à une logique tellement puissante que beaucoup de gens se sont trouvés dispersés, se sont détournés de la lutte en disant en fait on n'a aucun projet sérieux, moi j'ai pas envie de vivre, de descendre à la rue à la petite semaine. Voilà.
Tu as mis en évidence un problème fondamental, c'est que d'une part, tu as cette énorme concentration de pouvoir au sens le plus large du terme, non seulement économique, mais aussi pouvoir de décision. Il y a un front compact de décideurs qui ont des stratégies bien précises, même s'il ne s'agit que de suivre et de favoriser le marché. Et d'autre part, tu as une énorme masse dispersée de gens qui ont envie de vivre tous les jours un peu mieux et qui n'ont pas de projet particulier à long terme, sauf celui de s'assurer dans le meilleur des cas un salaire et ainsi de suite. Alors le problème, il s'agit de savoir comment on peut mettre en face cette énorme concentration de pouvoir économique et de décision, d'une part, et d'autre part, cette énorme dispersion qui est, elle, négative en ce qui concerne la vue qu'on doit avoir sur son propre futur. Il ne faut pas non plus oublier que cette énorme concentration se traduit, par exemple, à un niveau très très pratique, par une extraordinaire concentration de l'information de la presse. Aujourd'hui, les groupes industriels et les groupes financiers sont en train de s'emparer de toute la presse mondiale. Il n'y a plus un groupe indépendant de presse qui puisse donner des opinions différentes. Donc la possession, le contrôle, la maîtrise de l'information est aussi un moyen extraordinaire de mouler les esprits dans une certaine direction, ce qui fait qu'à force de lire le même journal et regarder la même télévision, on raconte tous la même chose. Et c'est exactement ce qu'il faudrait pouvoir peut-être éviter en fournissant des alternatives. Il est question, par exemple, dans certains milieux, y compris celui-ci, de créer des journaux alternatifs, des journaux qui puissent rassembler des opinions diverses, non seulement dans les pays industrialisés, mais aussi dans les pays du tiers-monde, parce qu'il est nécessaire de proposer d'autres façons de voir la réalité. Bon, ça, c'est un moyen de communication qui doit toucher la plupart des gens qui n'ont pas accès, qui n'ont accès qu'à une information directe, dirigée du haut, etc. C'est fondamental, par exemple, aussi, de vouloir recréer un contrôle direct de ses propres épargnes. Aujourd'hui, les épargnes confluent dans des associations d'ordre public qui ont été chargées de gérer cette épargne. C'est une épargne forcée, dont on ne dispose plus. Ma mémoire n'est pas aussi bonne que ça, mais je me rappelle qu'il y a 5-10 ans, dans un pays comme la Suisse, le taux d'épargne était d'environ 24%-25% des revenus. De ce 24-25%, 15-17% c'était l'épargne volontaire et le reste c'était l'épargne forcée, c'est-à-dire le pilier, toutes sortes de piliers pour la vieillesse, toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, le rapport s'est inversé. L'épargne forcée est passée à peu près 16-17% du total et l'épargne volontaire à 5-6% du total, ce qui veut dire qu'on ne dispose même plus de sa propre épargne. Or, si on relibère l'épargne et on redonne aux gens le loisir, la liberté de gérer sa propre épargne, comme il le désire, quitte à se faire aider, mais ça c'est déjà une reprise, une décentralisation des pouvoirs économiques, comme celle qu'on peut obtenir en créant des structures alternatives d'information.
Voilà, avec cette intervention de Ferruccio, je crois qu'on est arrivé à une phase un tout petit peu moins noire de notre discussion. On commence à au moins formuler quelques idées de ce qu'on peut faire pour sortir un peu de cette impuissance, de cette impasse profonde dans laquelle on se trouve. Je crois que la prochaine émission, on va en parler plus longuement, justement, de que faire dans cette situation.
D'autant plus nécessaire que le grand danger quand on parle de ces questions-là, c'est d'être un peu comme dans les contes où la simple vision du monstre pétrifie les héros. On pourrait continuer à parler longuement des impasses dans lesquelles on est et ruminer notre impuissance. Et je crois qu'il est vraiment fondamental qu'à certains moments, ayant fait une certaine série de constatations, soit capable de dire voilà, qu'est-ce qu'on a besoin pour développer notre autonomie, pour développer notre vie, notre capacité de vouloir, de s'unir avec d'autres gens pour faire et avoir la vie qu'on veut.
Sick and dying, sweet Mary was in a certain room, so in silk so fine. And when she learned that poor Georgie was dead, she threw her silk aside. She weeped, she moaned, yes, she weeped and she moaned, she weeped and moaned all day. Her mother said, oh Mary dear, you'll meet him again someday. Yes, Georgie rode home one cold winter night. George Allen rode home so fine. George Allen rode home one cold winter night and taken sick and dying.
Vous êtes à l'écoute de Radio Zone 101,4 MHz. Dans quelques instants, nos informations, le temps de retourner la cassette et on se retrouve bien sûr, je rappelle, Radio Zone 101,4 MHz.
Alors lundi, parce qu'il y avait, il était question dans la presse, d'après les déclarations de Monsieur Schmitt, que la centrale redémarre le 15 novembre prochain. Alors j'ai téléphoné pour savoir où c'en était, parce qu'il y avait dans cette consultation jeudi dernier dans votre service là, au le groupe permanent chargé des réacteurs.
Qui... d'experts s'y avait uni la semaine dernière.
C'est ça, voilà. C'est ça, voilà.
Et a émis des avis, des recommandations que nous sommes en train d'analyser pour arriver à une décision.
C'est ça. Mais il n'y a encore aucune décision de...
Ah bah non, elle serait connue quand même si elle était prise. Elle est en cours de gestation, la décision.
Oui, et vous attendez une décision encore alors vous, grosso modo, disons.
Une petite souris, moi, il faut que ça passe par le cabinet du ministre. Donc nous on va alimenter le ministre d'un avis concernant la sûreté de l'installation. Il y a d'autres aspects qui nous échappent, qui sont des aspects de politique industrielle, je ne sais quoi, moi.
Il y a d'autres consultations qui vont avoir lieu à ce propos de cette décision, donc.
Ben, non, mais il y a plusieurs éléments pour la petite décision.
C'est ça.
Hein. Il y a d'une part, bon, quelque chose d'incontournable, c'est effectivement l'avis sur la sûreté, hein. L'avis concernant la sûreté de fonctionnement.
C'est ça, oui.
Puis ensuite, d'autres analyses qui sont des stratégies qui relisent...
économique, etc.
De stratégie économique, politique, etc. Politique industrielle. Hein.
C'est ça.
Donc moi, je, personnellement, je n'ai pas les billes pour répondre. La décision n'est pas prise.
C'est ça. Au niveau de la, strictement parlant, de la sûreté, il y a d'autres éléments qui vont entrer en jeu à part le dossier de M. Schmitt. Il y a encore une consultation qui continue maintenant là-dessus, ou bien...
écoutez, je n'ai pas tous les éléments pour répondre. Moi, je m'occupe d'informations sur le nucléaire de façon générale. Hein.
Mm-hmm.
J'alimente le journal Magnuc, que vous connaissez peut-être, sur Minitel, puis un bulletin sur la sûreté des installations. Hein.
C'est ça, oui.
Donc, maintenant, pour répondre en réel sur quelque chose qui est en cours de décision, c'est difficile. Hein.
Oui.
Je veux bien essayer de vous renvoyer, monsieur Zavéry. C'est vous que nous avions eu lundi soir, je pense.
C'est ça, oui.
Vous êtes journaliste sur une chaîne de...
Oui, une radio locale dans la région genevoise, c'est ça.
Oui. Je veux bien essayer de vous rappeler sur la vérité. Je ne sais pas si va pouvoir vous prendre là. Il est très occupé. Hein. Justement, mon dossier, c'est préparer les éléments de prise de décision du ministre. Hein.
C'est ça. Donc...
Alors, je vais essayer de vous renvoyer, monsieur.
Ah, merci bien. En fait, si j'ai rappelé, c'est parce que M. Lavery m'a donné ces informations lundi, et mardi soir, il y avait une émission d'information régionale sur FR3, où il y a un responsable d'EDF qui a parlé, enfin quelqu'un qui se présentait comme responsable d'EDF, si je ne me trompe pas, qui disait que selon lui, selon eux, le problème était réglé, qu'ils allaient installer, ou ils avaient installé, ça j'ai pas bien compris, une hotte au-dessus du réacteur qui pourrait servir tout aussi bien que le barillet, et puis que le réacteur était aussi sûr qu'avant, et qu'en principe, il a de nouveau réitéré cette date qu'en principe, ils étaient prêts à redémarrer le 15 novembre. Alors ça m'a un peu étonné par rapport à ce que M. Lavery avait dit, et je voulais être sûr qu'il n'y avait pas eu de nouveau entre-temps.
D'un côté, nous avons une analyse qui n'est pas forcément la même. Hein.
C'est ça.
Bon, ceci dit, on ne peut rien dire. Je crois que vous attendiez que la décision soit officialisée. Hein.
Ça.
Moi, je ne peux pas vous en dire plus, hein, monsieur Lavery non plus. Hein.
D'accord. Donc, en fait, il y a...
La position d'EDF redémarrer ou l'autre, vous ne pouvez pas dire. On n'a pas pris la décision du ministère. Hein.
D'accord. Donc, en fait, il s'agit plutôt de... S'il y a contradiction, c'est entre les positions de différentes personnes, dans l'administration, c'est pas qu'il y a une décision du nouveau qui est apparue. C'est plutôt le point de vue d'EDF et votre point de vue, c'est pas une question d'une nouveauté ou une décision qui est plus imminente qu'avant. Parce que M. Lavery m'avait dit qu'il doutait qu'il y ait une décision avant la fin du mois. D'accord.
Ça, c'est clair.
Ce 15 novembre, c'est... Il ne faut pas le prendre trop au sérieux,
non,
quoi.
Non, je ne pense pas. Si une décision est prise, c'est bon, si c'est pas la fin du mois... Bah si, c'est 15 jours, oui, c'est ça. C'est la fin du mois.
Ah, mais il parlait du 15 novembre, donc c'est samedi. Il disait pas dans 15 jours, c'est du 15 novembre. Ce qui semble... C'est pour ça que j'ai été étonné, quoi.
Oui. Il vous a pas dit si c'était une décision favorable au redémarrage ou...
Non, il disait que eux, ils étaient prêts à redémarrer en principe le 15 décembre.
D'accord. EDF.
Oui.
Oui, mais bien sûr qu'ils sont prêts.
Oui.
Par contre, la décision de l'administration, c'est bien la fin du mois.
Oui, il a dit pas avant la fin du mois, monsieur Lavery.
Voilà, c'est clair.
Oui.
Le problème est bien compliqué, hein.
Oui, d'accord. Ok, alors je vous remercie beaucoup de ces informations.
Excusez-moi.
Et bonne journée.
Vite, hein.
Oui, non, je vois bien, simplement je voulais bien...
C'est un peu gênant quand même, vous dire.
Oui,
je... Qu'on soit transparent, hein.
Oui, mais c'est clair. On peut pas, je ne peux pas brusquer les événements au niveau de la formation, mais c'est simplement que vous jouez être sûr qu'il n'y avait pas eu de nouveau entre-temps.
Du point de vue officiel, vous prenez une information, vous fondez sur ce que vous a dit M. Lavery, qui vous est confirmé aujourd'hui. Hein.
Très bien.
Voilà, monsieur, bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Amener la cohésion dans l'équipe. Bonne chance en tout cas pour le maire, l'affaire ne semble relativement mal emmanchée. Nouvelle locale genevoise, une arrestation d'un dangereux toxicomane près de Genève. Oui, c'est le 16 janvier dernier, vers 2h du matin, que la police a appréhendé un toxicomane qui se livrait à des activités extrêmement dangereuses sur l'autoroute Lausanne-Genève. Ce toxicomane, il est bien connu des Genevois puisqu'il s'agit de Michel Hensch, ex-directeur de la prison de Chandelon, actuellement chef du service pénitentiaire vaudois. Le 16 janvier dernier, vers 2h du matin, il a été interpellé par la police alors qu'il roulait à contresens sur l'autoroute Lausanne-Genève avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 2 pour 1000. Son permis a été bien sûr retiré et cette affaire risque aussi de lui coûter sa place à ce haut fonctionnaire. Jean-François Lebas, chef du département vaudois de justice et police, a confirmé qu'une enquête pénale avait été ouverte, comme il se doit dans ce genre de cas. En attendant les conclusions de la justice, la procédure disciplinaire est suspendue, a-t-il précisé. Chose bizarre, on se demande si on suspendrait de telles procédures s'il s'agissait d'un fonctionnaire moins élevé. Michel Hensch est devenu responsable des établissements pénitentiaires vaudois et de l'application des peines il y a moins d'une année. Avant cela, il dirigeait une des prisons du pays de Vaud et avant ça, il dirigeait la prison genevoise de Chandelon où il s'est fait une renommée pour sa sévérité envers les toxicomanes, rappelant qu'il y en a au moins 7 d'entre eux qui sont morts pendant qu'il était directeur, dont certains dans des conditions les plus troubles et suite à des mesures disciplinaires des plus sévères prises par ce fameux directeur. On savait d'ailleurs quand Michel Hensch est parti de Genève déjà que son équilibre psychique n'était pas tout ce que ça pouvait être. Il semblerait que petit à petit, il a craqué sous le poids de son travail ou de sa conscience, Dieu sait quoi. Encore une nouvelle locale genevoise, un nazi applaudi. La Commission des droits de l'homme de l'ONU, composée de 43 États membres qui siègent à Genève jusqu'au 15 mars, a élu à la vice-présidence le représentant de l'RDA, un candidat proposé par les pays de l'Est. L'Assemblée a désigné par acclamation Hermann Kleiner, titulaire de la carte numéro 975 6141, du Parti national socialiste, délivré le 20 avril 1944. C'était un peu tard pour se joindre aux nazis. Le passé nazi de l'honorable vice-président de la Commission des droits de l'homme de l'ONU a été pourtant bien connu. Le fait a été dénoncé publiquement lors de la session de 1984. La crédibilité de l'organisme a évidemment été ébranlée par cette surprenante nomination. Mais le président colombien, Hector Chari Samper, s'il s'est montré conscient du risque, a déclaré sans embâge qu'une dose d'autocritique est toujours bienvenue et que renforcer notre crédibilité est notre première obligation. Bon courage. En attendant, l'Assemblée compte sur une contribution active du vice-président à la discussion du point 21 de l'ordre du jour, c'est-à-dire mesures à prendre contre toutes les idéologies et pratiques totalitaires ou autres, y compris le nazisme. Il faut dire que, si lui, il est vice-président, il ne fait que seconder le président de la Commission des droits de l'homme, le président colombien, Hector Chéri Saint-Père, qu'on vient de nommer. Et vous savez, si vous écoutez régulièrement Radio Zone, que ce même ambassadeur vient d'organiser un banquet en l'honneur du départ du tortionnaire bien connu Washington Carrasco, qui repartait rendre compte de son travail au dictateur Pinochet au Chili. Alors, entre un ami du tortionnaire Carrasco et un ex-nazi, ça doit être possible de trouver une façon de travailler pour les droits de l'homme. Bonne chance pour les hommes. Silence, on pollue. C'était le 25 octobre de l'année dernière qu'une expérience a mal tourné dans un laboratoire de la section de chimie organique de l'Université de Genève. Très mal tourné, on pourrait dire, puisque au lieu d'obtenir le produit qu'on cherchait à obtenir, un chercheur a fabriqué inopinément de la dioxine. C'est le branle-bas de combat et le chape de plomb, le plus grand secret en ce qui concerne cet accident. Personne ne sera contaminé apparemment, mais le laboratoire a été fermé jusqu'à fin janvier de cette année. Jusqu'au bout, le mot d'ordre aurait été motus et bouche cousue, à la demande expresse du Conseil d'État genevois, sensible à certaines soi-disant phobies. Par précaution, des analystes sont quand même venus un mois après l'accident dans le laboratoire genevois afin de vérifier qu'il n'y avait pas eu d'émission de poussière de dioxine en dehors de l'enceinte où s'est produit l'expérience. En fait, ils en ont bel et bien trouvé de la dioxine à trois endroits différents du laboratoire autour de la table supportant l'appareil. Le nettoyage du laboratoire a posé quelques problèmes, car on sait qu'il est difficile d'éliminer la dioxine. L'Université de Genève a alors demandé conseil à Hoffmann Laroche, grand connaisseur de ce genre de pollution, comme on sait, qui leur a indiqué un solvant particulier. Celui-ci étant classé parmi les produits toxiques, il a fallu installer un système de sas devant l'entrée du laboratoire afin qu'aucune poussière n'en sorte. Bref, il semblerait qu'il n'y a pas eu trop de dommages. Les autorités prétendent que de la dioxine, on en a seulement trouvé 3,1 microgrammes, ce qui serait, semble-t-il, assez peu. Mais, encore une fois, peut-on vraiment croire ce que nous disent les autorités qui maintiennent le silence sur tout ce qui concerne des pollutions, surtout quand ça pourrait mettre en question leur autorité et les mesures de sécurité utilisées à l'université. Nouvelle nationale française maintenant. Le Pacifique est nucléaire et le restera. On réaffirme l'importance stratégique du Pacifique Sud et l'intention de poursuivre les essais nucléaires français à Muroa, où nous sommes chez nous. Est-ce un militaire, est-ce un porte-parole de la droite la plus dure qui parle? Mais non, c'est Régis Debray, ex de gauche, ex même d'extrême gauche, si vous vous souvenez, il y a quelques années en arrière, il a même réussi à créer beaucoup de problèmes pour la guérilla colombienne en se baladant de par là-bas. Mais aujourd'hui, M. Debray a vieilli, il a pris de l'importance et il parle aujourd'hui comme un homme d'État de droite et chauvin par-dessus le marché. Régis Debray, il faut le dire, vient d'avoir une promotion. Il vient d'être nommé secrétaire général du Conseil du Pacifique Sud par François Mitterrand. Et ce job, apparemment, vaut bien quelques messes. interrogé sur l'opposition quand même qui existe et qui est même à peu près unanime de la part de tous les habitants réels du Pacifique Sud au nucléaire et aux essais nucléaires, Régis Dubray a admis qu'il y avait effectivement, je cite, un rejet massif de la présence française prenant prétexte du nucléaire et qui s'ancre dans ce qui fait l'unité de l'Océanie. Une mentalité religieuse, une éthique anglo-presbytérienne, synthèse entre le droit coutumier des missions insulaires et la morale biblique des missionnaires de Londres. Le tout relayé par l'université de Suva au Fidji, jusqu'à présent la seule du Pacifique Sud, qui a formé toute l'élite politique de la région depuis 30 ans et pour qui le nucléaire est simplement immoral. Le rejet est d'ordre mytho-affectif, mais cela ne doit pas nous empêcher d'informer et d'expliquer. Alors voilà l'explication pour cet homme soi-disant encore de gauche, puisqu'il est quand même du Parti Socialiste. Et la position nucléaire n'est qu'une opposition mytho-affective qui affecte particulièrement les presbytériens et les insulaires du Pacifique. Et donc on peut négliger totalement l'opinion et la volonté de ces gens, puisqu'ils sont dans leur tort, est soumise à de mythes primitifs antinucléaires. Mais finalement, y a-t-il finalement des gens pour de qui il faut respecter l'opinion au Pacifique? À la question du journal Libération, pensez-vous donc, comme le géographe Lacoste, que le Pacifique est vide? Régis Dubray répond non. Le Pacifique est vide d'hommes. Oui. C'est bien ce qu'il a dit, le Pacifique est vide d'hommes, mais l'océan est plein de protéines, d'énergie, de nodules polymétalliques. Voilà ce que Régis Dubray voit dans le Pacifique. Autrement dit, le pouvoir, la puissance, la richesse pour ceux qui dirigent la France, si seulement on arrive à empêcher les quelques hommes, bon, c'est quand même pas tout à fait vide, mais les quelques hommes qui habitent au Pacifique, d'imposer leur volonté sur celle de la France. Encore une affaire nationale française, pas toute nouvelle, mais quand même, ça vaut la peine de revenir là-dessus, puisqu'on en a déjà parlé, c'est l'affaire Pordea. Vous vous souvenez que ce député européen du Front National s'est révélé être un agent, un espion roumain. Et cet espion roumain avait acheté sa place sur la liste du Front National, sur la liste Le Pen, en filant 500 000 dollars, la main dans la main, à M. Le Pen, ou plutôt à Mme Le Pen, parce que M. Le Pen avait un peu peur de se mouiller dans l'affaire de trop près. Eh bien, l'affaire se corse encore. Les dernières révélations du journal Libération de la semaine dernière, il semblerait que vraiment ce monsieur Pordea est un représentant qui représente beaucoup de monde. Non seulement il représente l'extrême droite, d'une certaine façon, il représente aussi les partis communistes roumains, qu'on pourrait dire être à gauche, et finalement, il semble qu'il représente avant tout le gouvernement français, puisqu'il semble que cet agent roumain ait été retourné, en tout cas est devenu agent double au sol du gouvernement, et cela depuis fort longtemps. Et oui, il semblerait que l'Élysée était tout à fait au courant de toutes les menées des services secrets autour de M. Pordea, et l'ont suivi et fiché de près à la DST depuis 1962. Monsieur Pordea est devenu beaucoup plus intéressant vers 1983, très exactement le 13 décembre 1983, quand Gustave Pordea a rencontré pour la première fois le colonel Mitran, haut fonctionnaire du ministre roumain des Affaires étrangères, à Vienne, à l'hôtel Bristol, très exactement. Là, Le colonel Mitran lui a donné ordre de se réactiver et de se prendre comme but d'infiltrer quelqu'un au Parlement européen qui défend le point de vue nationaliste roumain et qui bloque les critiques vis-à-vis du gouvernement Ceausescu. L'Élysée, parfaitement au courant, aurait laissé Le Pen toucher les 4 millions de francs lourds qui lui ont permis l'élection du respectable espion ou agent double, comme on voudra, pour son siège au Parlement européen. Preuve que l'Élysée suivait l'affaire de près, le dossier Pordea, qui avait été classé comme particulièrement secret à la DST, a été arraché des mains de la DST fin 83 et a été confié par la suite aux brigades antiterroristes dépendant directement de l'Élysée. Le 17 juin 1984, quelques mois et donc 4 millions de francs plus tard, Gustave Pordea est donc élu au Parlement européen au titre de député de l'extrême droite française. L'Élysée était donc parfaitement au courant depuis le début des intentions des services roumains. Sans doute a-t-il choisi de laisser faire, étant donné qu'ils avaient réussi à en faire un agent double. Maintenant, il reste à savoir si M. Le Pen, qui a survécu aux révélations sur son passé de tortionnaire, qui a apparemment survécu aussi aux révélations sur ses affaires financières les plus douteuses, va réussir à survivre au ridicule d'avoir été coquifié à la fois par l'espionnage roumain et le gouvernement de l'Élysée. Nouvelle nationale suisse. Le lobby de l'Afrique du Sud se déchaîne. C'est bien connu, la presse suisse et européenne pratique une désinformation éhontée sur l'Afrique du Sud. La race noire n'y est ni maltraitée ni opprimée. Ce ne sont là que purs mensonges inventés par des médias soudoyés par des milieux communistes ou pro-communistes qui font de la désinformation et par une majorité de jeunes journalistes romans socio-gauchistes. Ces propos nuancés, la conseillère nationale bernoise et candidate au Conseil d'État, Geneviève Aubry, les a clamés mercredi 5 février sur les ondes de Radio Afrique du Sud. Pour l'occasion, elle était accompagnée de son mari et du conseiller national fribourgeois Pierre Rime, qui n'ont pas manqué d'entonner le refrain habilement soufflé par les speakers de la station sud-africaine. Le conseiller national Pierre Rime a eu cet exemple fracassant. Quand les médias suisses parlent de Soweto, c'est toujours pour montrer les clochards. Faux. La presse suisse ne parle d'ailleurs plus du tout de Soweto. Et pour cause, le séjour des journalistes y est strictement interdit. Malheureusement, Geneviève Aubry et Pierre Rime n'ont pas songé à le faire remarquer à leurs amis sud-africains. Ou peut-être souffraient-ils simplement de malinformation. Sait-on jamais. Encore une affaire où la Suisse n'apparaît pas, ne sort pas grandie. Une affaire qui concerne la Suisse et le tiers-monde. On a dévoilé encore à Buenos Aires quelques détails sur la fameuse affaire de fraude qui concerne les grandes compagnies d'électricité suisse. La presse argentine des derniers mois de 1985 titrait en gros caractères « Complot suisse, la conspiration helvétique ». Qui en a entendu parler en Suisse ? Bien un peu de monde, sauf peut-être quelques-uns qui écoutent Radio Zone, bien sûr. Toujours friand de titres à scandale sur les actes de brigandage et de terrorisme, les médias du pays des banques sont restés d'une discrétion de gnomes zurichois. Mais en coulisses, on s'est agité. La veille de la session parlementaire, où devait être rendu public le rapport de la commission d'enquête argentine sur les irrégularités dans la vente de l'entreprise d'électricité CIAE à l'Argentine, Édouard Brunner, secrétaire d'État du département des affaires étrangères de Berne, débarquait à Buenos Aires pour éviter le pire. Un an plus tôt, son chef, le socialiste Pierre Aubert, avait aussi fait le voyage pour, selon la NZZ du 8 octobre 1984, faire connaître l'inquiétude du Conseil fédéral et des milieux industriels intéressés, ainsi que de l'opinion publique à propos de cette affaire. Cette polémique, a-t-il dit, est de nature à troubler le climat économique entre la Suisse et l'Argentine. Mais sur quoi porte cette polémique exactement ? Puisque finalement l'opinion publique suisse, appelée à la rescousse par la NZZ, n'en sait rien, tant est grand le silence. Eh bien, en lisant les journaux d'Argentine, ce n'est pas difficile de reconstituer l'affaire. C'est que d'importants helvètes de la finance et du gouvernement ont trempé dans le complot. Entre 1976 et 1978, tandis que la dictature massacrait le peuple argentin, Moto Columbus et des grandes banques vendaient leur entreprise électrique, CIAE, lourdement endettée, pour un prix surfait à l'État argentin. Ce sale marchandage, impossible sans tenir à l'écart l'opinion publique, s'est effectué dans les règles de l'art. Suisses ou Argentins avaient leurs pseudonymes, leurs codes et rendez-vous secrets, leurs intrigues. Monsieur Cohn et Monsieur Enderlin de Moto Columbus, Monsieur Tobler de l'UBS, l'ancien conseiller fédéral Brugger, l'ambassadeur W. Frey, les hauts fonctionnaires Joll et Stopper tiraient les ficelles, associés en Argentine aux frères Alemann, au père et au fils Soldati, et au ministre de l'économie Martinez de Hoz. Les cerveaux de la conspiration, eux, se cachaient à Baden et Berne. Leur arme, tout aussi redoutable qu'une charge ou un revolver, le chantage au crédit qui leur permettait de tenir les dictateurs argentins en otage. Ce terrorisme économique de haut vol illustre comment la Suisse, brave et neutre, traite le tiers-monde. La politique étrangère et économique de la Suisse est celle d'un vampire. Écoutez le rapport des parlementaires argentins. Je cite: la politique de destruction systématique de notre économie, méticuleusement pratiquée par la dictature, l'opération Italo, est bien mise en évidence par l'opération Italo. Il s'agissait donc du nom de code pour cette vente du Moto Columbus au gouvernement argentin. Cette opération est étroitement liée à la politique simultanée et parallèle de peur, de terreur et d'écrasement de tous les droits et libertés en Argentine. Sans le vandalisme brutal de la répression politique, et sociale qui a frappé le pays pendant des années, cette politique économique n'aurait pas pu être poursuivie et l'opération Italo n'aurait peut-être pas réussi. Bradage de l'économie nationale et terrorisme d'État, voilà les deux faces de la même sinistre médaille. Et encore une nouvelle internationale, le Mexique au bord de la faillite encore une fois. La baisse du pétrole a défait en quelques jours tous les efforts du Mexique pour se sortir de du piège de l'endettement. Suivant la chute des cours du marché international, le Mexique a annoncé vendredi 14 février une nouvelle baisse de ses prix officiels. Cette nouvelle baisse de prix coûtera au pays quelque 6 milliards de dollars de recettes extérieures de moins sur l'année, soit l'équivalent de 80% de l'excédent commercial du Mexique de l'an passé. C'était les informations sur Radio Zone 101,4 MHz. En quelques instants, la suite de notre programme.